Le journal avec vous, Cyprien Louvi.
Bonjour, ticket ou pas ticket, Elisabeth Baumschneider le saura d'ici un peu plus de 24 heures. La jurassienne a terminé hier soir les auditions publiques entre les trois socialistes candidates au Conseil fédéral. Comment le vote va-t-il se dérouler demain à Berne? On vous l'explique dans ce journal. Quand le train miniature se dévoile au public, l'amicale du rail et du modélisme jurassien présente sa maquette ferroviaire ce week-end. Ces mordus travaillent dessus depuis 30 ans pour certains. Reportage passion d'ici quelques minutes. De la passion au rêve, il n'y a parfois qu'un pas. Le rêve éveillé démarre demain pour Quentin Juillard. Le jurassien entame la Coupe du monde de bobsleigh au Canada. Il s'y est préparé depuis 3 semaines et nous en parle. À peine 10 degrés au plus en plaine, 6 sur les hauteurs, encore un peu moins demain et dimanche. Plutôt frisquet la météo régionale, un ciel gris et quelques éclaircies cet après-midi, limite des flocons, 1200 mètres. C'est le sprint final pour Elisabeth Baumschneider. Le ticket socialiste sera dévoilé demain par le groupe parlementaire pour la succession de Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral. La candidate jurassienne et ses deux rivales, Evie Alemann et Eva Herzog, ont été auditionnées cette semaine dans plusieurs villes par des sympathisantes du PS et le public. À la veille de savoir si elle fera partie des deux candidates socialistes officielles au Conseil fédéral, Elisabeth Baumschneider nous livre son état d'esprit.
Très positive parce que je trouve que j'ai eu la chance de participer déjà à cette première étape de différentes villes. Je suis positive, mais bien sûr très réaliste.
Entre Eva Herzog et Evie Alemann, est-ce qu'il y a une des deux candidates que vous redoutez peut-être plus qu'une autre à l'heure actuelle?
Mais moi, je crois que je n'ai pas tellement à me prononcer à ce sujet-là. Je pense que si j'ai la chance de figurer sur le ticket, ben, il faudra que je me remette très vite à travailler encore plus jour et nuit pour convaincre les élus sous la coupole fédérale qu'il faut au moins que j'attrape ces 124, 125, 126 voix. Donc, c'est pas tellement de voir quelle est la candidate qui est en face de moi, mais plutôt de voir comment j'arrive à convaincre. Moi, je fais jamais les choses contre les gens, mais toujours pour les idées que j'essaie d'incarner. Et puis, avec cette espèce de confiance, peut-être parfois un peu trop optimiste, qu'il faut toujours essayer. Puis, on ne gagne pas la loterie si on n'achète pas de ticket.
Elisabeth Baumschneider était au téléphone de Michel Léoni ce matin dans la matinale. Retrouvez l'entretien complet sur rfj.ch. C'est donc sur le coup de 13h30 demain que les noms des deux candidates socialistes au Conseil fédéral seront connus. Les 47 parlementaires fédéraux socialistes se retrouvent demain matin au Palais. Les trois candidates pourront s'exprimer et répondront ensuite aux questions. Les parlementaires pourront voter pour un ou deux noms, ce qui accroît le suspense, analyse et pronostic de notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
Disposer de deux lignes sur son bulletin de vote constitue une information cruciale, a priori favorable à Elisabeth Baumschneider, qui pourrait être la championne de la deuxième ligne, derrière Eva Herzog ou Evie Alemann. Mais peu importe le rang sur le bulletin de vote, l'important est de figurer sur le ticket final à deux. Alors comment vont voter les parlementaires socialistes? Ils sont souvent supporters de l'une ou l'autre candidate, mais comment faire pour qu'elle figure sur le ticket, puis qu'elle obtienne une majorité devant l'Assemblée fédérale pour entrer au Conseil fédéral? Au premier tour de vote, on pourrait se limiter à remplir une ligne pour voir, puis dès le deuxième tour, ajouter une deuxième candidate sur le bulletin. En choisissant entre les deux favorites, Eva Herzog ou Evie Alemann, tout en ajoutant Elisabeth Baumschneider. Par conviction aussi, la jurassienne est un premier choix chez de nombreux socialistes, les romans bien sûr, presque tous, mais aussi chez des alémaniques parce qu'elle a séduit pour son profil plus à gauche et donc pour indirectement éliminer aussi une favorite. Au jeu très incertain des pronostics, à 24 heures du choix du groupe socialiste, le ticket Eva Herzog-Elisabeth Baumschneider paraît avoir la cote.
Et avant l'annonce du ticket socialiste demain, une nouvelle audition publique se tient en fin d'après-midi à Berne, celle du conseil du parti qui doit donner une recommandation. Le nombre d'exploitations agricoles continue de baisser dans le canton du Jura, dans les trois districts, c'est ce qui ressort du Memento Statistique 2022 publié récemment. Selon le document, on est passé sous la barre des 1000. Le Jura comptait 1009 exploitations en 2020 contre 995 au 31 décembre dernier. Cette diminution ne fait pas sourire AgriJura, mais son directeur François Monin relativise.
De manière générale, la disparition d'exploitations agricoles est quelque chose qui nous inquiète. Le chiffre de 1000, finalement, il est symbolique. Il faut continuer d'en parler de manière positive, expliquer finalement tous les avantages du métier, trouver également des solutions pour les questions de charge de travail ainsi que de rentabilité. Ça, c'est notre combat perpétuel pour des prix qui soient plus rémunérateurs aujourd'hui. Par contre, il faut quand même souligner que la disparition d'exploitations, ce changement structurel hein, tel qu'il est appelé, il est plus faible dans le Jura que dans le reste des cantons. On a aujourd'hui des structures jurassiennes qui sont importantes, hein, avec une moyenne d'hectares par exploitation qui est la plus élevée de Suisse. Et cela fait que les exploitations dans le Jura sont souvent déjà professionnelles, avec une taille critique qui permet à une famille de vivre, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres cantons, comme dans des cantons alpins, où les exploitations sont à temps partiel. Elles exigent un travail en dehors d'exploitation de la part du chef d'exploitation pour aller chercher des sources de revenus. Dans le Jura, on a 90 à 95% des exploitations qui sont à titre professionnel.
Si le nombre d'exploitations agricoles baisse dans le Jura, celui d'animaux de rente est au contraire en augmentation grâce aux volailles. On y revient dans le journal de 18h. Le Fritz des Rangiers et la bannière des seigneurs d'Azuel seront accessibles au public au printemps 2024. Le musée du Mont-Repais va être rénové pour accueillir ces deux pièces majeures. Les travaux devraient débuter au premier trimestre de l'année prochaine pour un coût avoisinant le 1 000 000 de francs. Les vestiges du Fritz sont entreposés dans une remise depuis sa chute en 1989. Ils vont donc faire leur retour au grand jour. Voulu comme un symbole rassembleur, le Fritz a ensuite été un symbole de discorde, une histoire ambivalente qui a nécessité quelques réflexions pour le mettre en scène. Samantha Reichenbach est muséographe et s'est chargée de la scénographie de la future exposition.
Ça a évidemment suscité une réflexion. On se trouve face à un objet très volumineux, dans les dimensions d'une hauteur de plus de 4 mètres. Et paradoxalement, il est dans un très mauvais état de par son histoire. C'est un objet qui a cristallisé beaucoup de sensibilités différentes, beaucoup d'émotions. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'était donner la possibilité au public de voir cet objet dans son état actuel, avec toute l'histoire qu'il comporte, et de présenter dans toute l'objectivité possible l'histoire de cet objet. Quand on se trouve face à un objet comme ça, qui est fortement abîmé, c'est là qu'intervient la scénographie aussi. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi décidé d'intégrer de l'animation multimédia, de sorte à présenter cet objet aussi sous les différentes facettes de son histoire et de permettre aussi aux visiteurs d'avoir un contenu qui aille au-delà du simple objet dans l'état dans lequel il est.
La bannière des seigneurs d'Azuel nécessitera, elle, des conditions de conservation et d'exposition particulières pour ne pas être abîmée. On rêve d'en avoir un dans le grenier quand on est passionné. Il demande patience et minutie. Le train en modélisme. Figurez-vous que des mordus travaillent sur une maquette depuis une trentaine d'années. Le réseau fonctionne aujourd'hui grâce à un système électronique et informatique qui permet de gérer plusieurs trains en même temps. À découvrir ce week-end à l'école du Grosseux à Delémont. Le président de l'amicale du rail et modélisme jurassien présente cette maquette dont les bases sont tirées du réseau ferroviaire d'origine. Vincent Bouduban.
Ah oui, toute la structure, toute l'infrastructure, l'ossature, on va dire le squelette, a été très peu modifié. On a fait une ouverture par rapport au squelette de départ, mais sinon c'est vraiment tout l'aspect du décor, surtout qui prend beaucoup de temps si on veut faire du détaillage, plus l'aspect bien sûr technique de brancher les éléments entre eux pour pouvoir faire commander les aiguillages, faire que les trains ne se rentrent pas dedans, etc. Quoi.
Il y a combien de mètres de voie?
Je pense qu'il y a environ 70 mètres par circuit, donc il doit y avoir bien 140 mètres de voie. Quoi. Ce qui est chouette aussi, c'est que c'est des gens de tout milieu qui sont passionnés par le train. Il y a des docteurs, il y a des musiciens, il y a des agents de police, il y a des jeunes étudiants, il y a des anciens cheminots, il y a des mécanos d'usine. Voilà, il y a vraiment un peu tout. On se rencontre, notre passion c'est le train, quoi. Ici on parle que de train.
Je suis pratiquement né dans le train, moi.
Dites-moi.
Moi je suis né en Seigne-Légier. J'ai commencé avec l'école enfantine, qui était sur le trajet pour rentrer à la maison. Bien des fois, mon père a dû venir me chercher à la gare pour venir manger. Et puis, de fil en aiguille, on a joué au train. Après, on a commencé à faire de la maquette.
Qu'est-ce qui t'a amené ici, toi? Pourquoi t'es venu?
Je suis fan de train depuis mon plus jeune âge. J'ai attrapé le virus ferroviaire depuis ma naissance. J'ai commencé avec les petits trambeaux comme ça dans ma chambre. Puis au fur et à mesure, j'ai reçu mon premier modèle réduit pour le train. Puis j'ai pas cessé de continuer d'agrandir ma collection. Puis j'adore aussi aller faire des tours en Suisse en train me lever le matin puis partir à l'autre bout de la Suisse.
Et puis ça demande aussi beaucoup de patience, beaucoup de construire des maisonnettes ou de faire des arbres, de faire des petites choses. C'est très apaisant, en tout cas en ce qui me concerne. Moi qui suis plutôt un agité, un excité, le modélisme me canalise bien.
Un reportage de Jean-Michel Probst, les portes ouvertes de l'Amicale du Rail et Modélisme Jurassien, c'est dans la journée de demain et dimanche à l'école du Grosse à Delémont.
RFJ, il est 12h25.
Sport.
Réagir pour ne pas être totalement décroché, le HC Ajoie n'a plus vraiment le choix dans le championnat de National League. La troupe de Philippe Péchan reçoit Lausanne ce soir à 19h45 à Porrentruy. L'occasion pour la lanterne rouge jurassienne de revenir à 5 points de son adversaire vaudois. Le LHC vit un exercice compliqué, il a changé d'entraîneur il y a 3 semaines à la veille de la pause internationale. Place au Canadien Geoff Ward, l'attaquant jurassien de Lausanne, Marco Pedretti.
C'était, je pense, un changement dont on avait besoin. On était quand même sur une spirale négative et puis il fallait changer quelque chose. Maintenant, nouveau coach, un peu nouveau système, beaucoup de nouvelles informations. Mais ça fait du bien, il y a une nouvelle dynamique. Tout le monde a à nouveau un peu sa chance et puis tout le monde a envie de se montrer. Donc je pense que c'est positif.
Qu'est-ce qu'il essaye d'amener? Quelle est un peu sa philosophie de hockey sur glace?
Beaucoup d'intensité, de jouer vraiment vers l'avant et puis le plus rapidement possible. Donc essayer d'éviter de faire des dit-tout-dit, de revenir en défense, etc. Donc c'est un des changements qu'il essaie d'apporter, ouais.
Et dans la gestion de l'équipe, dans l'approche des joueurs, c'est aussi quelque chose de différent avec Geoff Ward?
Ouais, il a beaucoup de vécu, il a fait beaucoup d'années en NHL, donc il arrive quand même pas mal à gérer les groupes. Pour le moment, on a eu des bonnes discussions individuelles avec lui. C'est vrai qu'il fait beaucoup de vidéos également, et puis... Il explique bien les choses, ça se passe plutôt pas mal pour le moment.
Qu'est-ce qu'on vise en ce moment pour la suite de la saison dans le vestiaire du LHC?
On vise l'équipe qui est au-dessus. Notre but, c'est de grappiller le plus de points possible et puis de grimper au classement. On garde la confiance, on sait qu'on est capable. Maintenant, il faut arrêter de se trouver des excuses et puis de parler, et puis il faut agir. Donc là, il nous faut des points le plus rapidement possible et le plus possible.
Marco Pedretti au téléphone de Mathieu Schaffner. Ajoie-Lausanne, c'est un duel à vivre sur RFJ. Ce soir en direct dès 19h30, ce sera avec Mathieu Schaffner justement et notre consultant David Erard. Objectif top 4 pour le HC Moutier. Les hockeyeurs prévotois se déplacent chez leurs voisins, l'Ergue LHC à 20h30 en deuxième ligue. Une victoire du HCM permettrait de prendre provisoirement la troisième place du classement dans un groupe où les 4 premiers accèdent aux play-offs. Quentin Juillard vit en plein rêve. Le pousseur-freineur jurassien va entamer demain à Whistler sa première saison de Coupe du Monde de bobsleigh. Il a rejoint pour cet hiver le team Folador du pilote grison Cédric Folador. Objectif, se qualifier pour le championnat du monde à Saint-Moritz. Actuellement, la Julot est engagée en boba 4 et est remplaçant en boba 2. Après 3 semaines de préparation sur la piste canadienne, Quentin Juillard nous parle de son intégration au sein de l'équipe.
Ça s'est fait assez naturellement. Je connaissais déjà très bien l'équipe. Comme j'étais déjà allé avec Cédric Folador durant la dernière Coupe du Monde en 2020 à La Plagne, je connaissais déjà très bien Cédric et puis les coéquipiers. Comme on se côtoyait sur le circuit de l'Europa Cup, c'est très vite allé, quoi.
Il n'y a pas de petite jalousie de se dire « Tiens, il y a un petit jurassien qui vient nous piquer la place ?»
Non, c'est plutôt le seul roman de la fédération. Du coup, c'est toujours un petit peu des petites vannes avec la Romandie, etc. Mais c'est bon enfant, quoi, vraiment.
Et d'un point de vue personnel, comment vous voyez cette évolution, l'arrivée en Coupe du Monde? C'est un peu la consécration?
Tout à fait. Alors, c'est vraiment le Saint Graal, côtoyer des grands champions comme Francesco Friedrich à l'entraînement. C'est juste fou, c'est un peu des idoles. Et puis là, de se battre contre eux, c'est un peu des rêves d'enfant, quoi.
Des propos recueillis par Mathieu Schaffner. Après Whistler, l'équipe s'en ira aux États-Unis pour des descentes à Park City le week-end prochain et à Lake Placid le 18 décembre. C'est reparti pour un tour à la Coupe du Monde de football. Le deuxième match de groupe vient de débuter au Qatar avec le duel suivant, Pays de Galles-Iran, deux pays qui sont en quête d'une première victoire. On joue actuellement la 69e minute de jeu, c'est toujours 0-0. Et toujours en lien avec le mondial, le défenseur de l'équipe de France, Lucas Hernandez, a été opéré du genou droit avec succès. C'est une annonce faite ce matin par le Bayern de Munich, son club. Pour rappel, il s'est déchiré les ligaments croisés mardi soir lors de la rencontre des Bleus contre l'Australie. Selon les premiers rapports des médecins, il sera écarté des terrains durant 6 mois environ. Vous retrouvez toute l'actualité en lien avec le mondial dans notre journal de la Coupe du Monde. Ce sera à 18h30, comme tous les jours. Celui-ci de journal, il est terminé. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Bel après-midi. Merci.